Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui n'arrive pas à mettre le petit bout dans le grand trou. Bonjour à tous. Mais pourquoi ce jingle bizarre qui peut être interprété très étrangement? C'est parce que vous êtes au 1A Club et ce 1A Club est très particulier car nous avons du matos à nous. Sauf que, comme d'hab, quand on a besoin d'adaptateurs et de câbles, il nous en manque un. Ce qui fait que, à ma gauche, j'ai le docteur Tizak, celui qui n'entend pas le jingle, qui ne s'entend pas lui-même, qui ne sait pas ce que nous disons.
Bonjour à tous. Je suis un petit peu tout seul dans mon coin, j'ai pas d'oreille.
À ma droite, le grand, le barbu, le bougon, le Thio. Avant, il était bougon, mais maintenant il a des lunettes.
Merci.
Et des lentilles. Voilà. Et nous allons vous faire une émission. Oui, je sais, je dis n'importe quoi. Une émission très particulière.
Je les porte pas en même temps.
Ah, ça va. Une émission très très particulière, comme le dirait Dominique Farrugia, dans laquelle nous allons vous parler en fil rouge de Décalanquer les bulles. Nous avons interviewé le pôle partenariat qui nous expliquait comment ça fonctionne les partenariats. Une rubrique express. On enchaîne avec nos chroniques. Nous allons parler de Histoire de France en bande dessinée, de Le Héros et du tome 3 de Blast. En splash page, nous parlerons de Au Vent Mauvais. Une carte blanche sera accordée à Matt qui nous parlera de Gunmu, si je prononce bien. En online, nous reviendrons sur Le Ruban Bleu, une très très chouette web-série. Le docteur Isaac répondra aux commentaires que vous avez laissés sur le blog. Et enfin, on vous laissera tranquille. Ça va, le programme est...
Moi, ça me va.
La semaine nickel. Était plutôt pas mal.
Hein,
c'était
ouais.
Cool.
Ouais, c'était cool.
Mais t'as pas dit ce dont on avait parlé en express.
En express, non, je le dis pas parce que c'est de l'express. Sinon, on perd du temps à en parler, tu vois, dans l'express.
On envoie le fil
d'ailleurs, de toute façon, on va commencer de suite avec le fil rouge.
On voit le jingle alors.
Ouais, le fil rouge, décalant que des bulles. On vous rappelle que c'est le 27 et 28
avril.
Avril, ouais. Putain, je suis nul en date, moi. J'ai pas le problème en date. Que l'affiche est faite par Arthur Depin, c'est qu'elle est magnifique.
Oui.
Que nous serons présents pendant les deux jours et que ça serait cool si on vous rencontre.
Et que vous y verrez, on a des t-shirts qui flashent.
Ouais, on va avoir des t-shirts qui flashent. Donc je les commande, mais ils déchirent. Et puis ça nous fera plaisir de croiser des gens si on les croise. Si on les croise pas, ça nous fera pas plaisir. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, le pôle partenariat, on les écoute maintenant. Nous poursuivons nos interviews avec l'équipe du Festival des Calanques et des Bulles en recevant les membres du pôle partenariat.
Bonjour.
Claire, Léa et Elodie. Oh, je sais pas aussi. J'ai mélangé tous les prénoms. Là, je commence à avoir beaucoup de prénoms qui arrivent, ça devient difficile. Le pôle partenariat. Donc, en gros, vous êtes en charge de trouver des partenaires pour le festival. J'imagine que c'est principalement des partenaires financiers.
Bah, on essaye, mais c'est pas toujours facile.
Ouais. Alors, quoi ça consiste? Comment se passe le boulot, ce travail-là?
Donc, en fait, nous, on contacte les entreprises qui seraient susceptibles de financer le festival. Donc, ce n'est pas forcément des entreprises en rapport avec la BD, mais donc on essaye de les convaincre de nous aider à financer. Mais c'est aussi des dons en nature, donc des lots pour la tombola pendant le festival, ou encore des lots pour le jeu concours de dessin, en fait, pour les adultes et les enfants. Donc il faut des récompenses. Donc voilà, donc c'est à la fois financier et à la fois en nature.
Tiens, vite fait, le jeu concours de dessin pour les enfants. Qu'est-ce que donc ce jeu concours?
On a décidé cette année de faire un jeu concours donc qui serait réparti en deux thèmes en fait. Donc c'est il y a un thème pour enfants, c'est jusqu'à donc 12 ans, et un thème adulte donc de 12 ans et plus. Donc le thème du concours pour enfants c'est un panda à Marseille. Voilà, on avait envie de partir sur l'idée d'un animal.
C'est bien les pandas.
Voilà, c'est ça. Puisque c'est, donc, faut que ça rentre dans le thème de l'engagement, qui est quand même notre thème principal. Et pour les adultes, donc on est parti sur une citation de Mark Twain, qui est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et donc, on est parti sur le principe de faire, donc pour les adultes, des planches, enfin une planche, avec des contraintes. Et vu que j'aime beaucoup dessiner, je m'en suis chargée. Donc en fait, c'est une planche avec il y a 8 cases à peu près. Et dans 3 cases, j'ai mis par exemple, il y a un personnage avec une bulle donc à compléter. Ils peuvent compléter aussi la tête, l'habiller, etc. Une autre case où il y a juste un vase posé sur une table. Et puis une autre case où il y a une maison, voilà. Et donc ça sera aux adultes de remplir le.
Ça sera pendant le festival ou ça va
commencer? Non, en fait, ça va être avant. En fait, ça va être voilà. Ils devront arriver sur le festival avec la BD faite. Donc, ça sera lancé le 1er février. Donc, sur le site, les gens pourront venir télécharger. Et voilà. Et il y aura des lots à gagner.
On revient sur les partenariats. Vous touchez quel type d'entreprise?
C'est des entreprises très différentes. On essaye déjà d'avoir comme partenaire principal une banque parce que c'est eux qui sont plus susceptibles d'établir un partenariat financier avec nous. Cette année, on vise un peu la caisse d'épargne, enfin c'est à voir encore, c'est pas fixé.
Oui, ils sont très engagés dans la BD.
Voilà, en fait ils ont un site qui s'appelle Esprit BD, et donc ils soutiennent beaucoup de festis BD, donc on va voir avec eux si c'est possible, mais voilà, c'est en cours de négociation.
D'accord. On va voir. Parliez d'aide en nature, ça va être quoi? Ça va être une aide sur des réductions pour un transporteur, ça va être de la nourriture?
Ouais, en nourriture par exemple, on essaye de voir avec des supermarchés qui pourrait nous aider à nous fournir la matière première pour faire de la cuisine, parce qu'on a un stand de nourriture pendant le festival. Aussi, l'année dernière, on avait établi un partenariat avec Grafigro, le magasin de loisirs créatifs de Marseille, place de la préfecture. Ils nous avaient donné des lots pour le jeu concours. Donc, c'était un chevalet, des coffrets dessins, des choses comme ça.
Cette année, on a réussi à obtenir un partenariat avec Ocre Bleu, qui est... c'est un club de dessin, et on a réussi à obtenir comme récompense pour le jeu concours dessin un stage de dessin pour le vainqueur, donc c'est pas rien. Et également, on est en train de voir si on peut avoir également du matériel dessin comme deuxième, troisième cadeau pour le jeu concours.
J'imagine que tout ce qui est partenariat, c'est quelque chose qui doit être prêt vachement en amont du festival. Vous êtes donné une deadline, combien de temps avant le festival faut que vous soyez prêt?
C'est au moment, en fait, ce qu'on négocie, c'est souvent, les entreprises veulent avoir leur logo sur l'affiche. Donc, faut décider tous les partenariats avant que l'affiche soit éditée. Et donc là, je sais pas exactement la date de l'édition de l'affiche, de l'impression, mais.
On va dire que là, maintenant, elle est. Ça y est, elle est visible, ça doit être fait, je pense. Au moment où cette interview sera diffusée.
Oui, voilà. Ouais.
Donc, voilà. D'accord. Donc vous faites en avance et après vous faites rien.
Après on peut toujours démarcher des partenaires qui ne souhaitent pas être sur la fiche, donc il y a aucun souci.
Après le travail de partenariat fait, on va pas tout d'un coup s'arrêter de travailler, on va aller aider les autres pôles sans doute.
D'accord. Là, il y a un doute, c'est qu'est-ce qu'on va faire après? Les autres pôles sont en train d'essayer de les récupérer.
Il y a aussi plein de dossiers à remplir qui sont pour l'année future.
D'accord, vous commencez à préparer déjà l'année.
Il y a des dossiers qui doivent être remplis.
D'accord.
Voilà.
Et puis c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont d'accord pour avoir juste leur logo sur le lieu du festival, sur des wing flags, etc. Donc voilà, ça suffit. Quoi.
Votre dernière découverte en bande dessinée? Attention. Et déjà. De vous trois, est-ce que vous étiez toutes les trois lectrices de BD ou est-ce
non,
que...
enfin moi, personne. Ouais, toi oui. Bon, il y en a une sur les trois. Mmh. Bah, tu veux commencer par faire ta découverte?
Allez. Enfin, moi, j'ai découvert la bande dessinée avec mon père, tout simplement. Ça a été les Spirou, les Gaston Lagaffe, les Lucky Luke, toute la bande dessinée qui est assez vieille. Et puis finalement, après, j'ai eu une période de vide. Et puis finalement, après, je me suis mise à dessiner et je me suis plus rapprochée du manga. Donc là, je lis les deux. Et justement, ma dernière découverte BD, c'est Memento Mori de Ran. Et en fait, c'est une bande dessinée à la croisée des genres BD-manga. C'est une auteure que j'avais découvert sur Internet, puisqu'elle poste ses dessins sur DeviantArt, ainsi que des mini-BD sur des sites de lecture en ligne. Ouais. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti sa première bande dessinée en vrai, je me suis jetée littéralement dessus. Et c'est une très belle BD avec un style de dessin qui se rapproche beaucoup du manga, justement comme Patrick Sobral. On voit que c'est les mêmes codes de dessin que le manga, mais en même temps ça allie toutes les caractéristiques de la bande dessinée, et c'est un très beau livre que je conseille vivement à tous les auditeurs.
Ok, ça raconte quoi rapidement?
Rapidement, ça raconte... En fait, c'est inspiré de l'histoire de la Belle et la Bête. En même temps, c'est croisé avec un monde magique, fantastique. Et puis, deux sœurs jumelles qui sont poursuivies. Et puis, il y a des histoires d'alliances, de familles, de trahisons, de complots. Donc, c'est très dense. Et rien qu'en une BD, ça donne envie d'acheter justement le tome 2 qui devrait paraître en mars 2013.
D'accord. Suivante. Ça va être plus difficile, ça.
Voilà, donc comme je disais, moi, je pense que je suis beaucoup moins fan de BD que d'Elodie. Bon, après, c'est vrai que j'ai deux grands frères qui sont, eux, assez fans. Et depuis que je suis née, en fait, tous les Noëls, ils nous offrent à chacun des BD. Donc, bon, bien sûr, j'ai un peu
vite. T'es obligé de les lire pour leur faire plaisir.
Mais non, mais en plus, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, puisque depuis toute petite, je dessine beaucoup. Et je me suis énormément inspirée des planches que j'ai lues. Donc, bien sûr, l'Élan Feu, Troll de Troie, Thorgal, Black Cat, enfin, plein de BD, quoi. Enfin, je veux dire, on a quand même une bibliothèque assez remplie, mais je les ai pas toutes lues, quoi.
D'accord.
Et après, c'est vrai que j'ai un style de trait que j'apprécie particulièrement, et donc je lis souvent le même genre de BD, donc tout ce qui est Thorgal, enfin.
D'accord, oui.
Voilà. Et donc, sinon, bah, pour ma dernière découverte, je vais pas être très originale, mais je vais dire notre parrain, Arthur Depin, parce que donc je connaissais pas, et j'ai eu comme par hasard à Noël, mon frère m'a acheté, Péché Mignon de Arthur Depin. Il savait pas du tout que c'était mon parrain ni rien. Il allait à la Fnac et comme par hasard, il me dit « Oh, je me suis dit que ça te plairait. » Voilà, et c'est vrai que c'est vraiment humoriste comme dessin. C'est de la BD érotique, mais en même temps, c'est pas vulgaire. Donc c'est vraiment...
C'est scénarisé par une femme, Maya Mazoret, si je me trompe pas.
Mais non.
Il me semble que les Péchés Mignons sont co-scénarisés par Maya Mazoret. Ouais. Je dis peut-être une bêtise.
D'accord.
Hein,
je crois pas. Pour une fois, tu vois, je...
Ouais. Bon, je dis peut-être une bêtise. C'est pas grave. On vérifiera, voilà.
Oui, enfin voilà, quoi, donc dernière découverte.
Et pour moi, je suis pas non plus une grande... Enfin, je suis pas passionnée autant qu'Elodie et que certains des autres membres de l'équipe, mais j'adore la BD classique, surtout j'ai une famille qui adore la BD. Et là, ma dernière, en fait, c'est plutôt une redécouverte. Quand j'ai vu, en fait, qu'il y avait Loïc Juanigo, j'ai eu un flashback... parce que donc il a fait La Famille Passiflore et je crois que ça a été la première BD que j'ai adorée dans ma jeunesse et donc voilà, c'est plus une redécouverte.
Je connais pas du tout. Tu connais toi ?
En fait, c'est une BD enfantine, ça raconte les histoires d'une famille de lapins. Ils doivent être, je sais pas combien dans la famille, mais c'est énorme, il y a plein de petites histoires drôles. Ouais, ils ont adapté en dessin animé. Mais j'ai pas eu l'occasion de les voir. Et vraiment, le dessin est super détaillé et c'est vraiment magnifique.
D'accord. Donc, qui sera donc, tu as dit, au festival?
Au festival.
Et qui donc
Loïc Juanigo.
Vous annoncer comme invité?
Oula, je sais plus qui est-ce qu'on a.
Alors, il y aura Nob.
Nob.
Voilà. Donc, il y aura.
Ils ont tout noté sur un papier, mais je sais pas qui écrit comme ça.
Ouais, Wittberg.
Pochep,
Capon, Cocor. Voilà.
Mathieu Rennes.
Gami, on pense. Enfin, voilà.
Il y aura plein de gens super, quoi. Ok.
Mais on les a déjà dit, la plupart.
Oui.
On les a
dit.
C'est parce qu'eux, ils travaillent beaucoup pour chercher de l'argent, ça, pour l'instant.
Voilà.
Voilà,
ils ont bien raison. Voilà. Ah, si les auteurs y mangent, c'est grâce à eux.
Voilà. Comme disait Olivia, on est le socle. Voilà.
Ok. Eh bien, merci beaucoup.
Merci
à vous. Et à très bientôt. Au revoir.
Express.
On commence avec.
The Boys, le tome 17.
Et qu'est-ce qu'il nous raconte ce tome ?
Il nous parle du fils du boulanger. C'est-à-dire savoir comment est-ce qu'il fait tisser son pain.
Aucun rapport avec Pagnol. Hein.
Si, il y a un rapport avec les miches.
Ah, les miches, oui, ça, on croise des miches. Oui.
Donc, du coup, on va s'atteler à la naissance de Butcher.
On a enfin ses origines, quoi.
Ses origines, mais rien à voir avec le fils du boulanger, finalement.
Ok.
Enfin, si, parce que.
Ah, bah,
son
si,
père
quand même un petit peu, oui.
Bon, on voit que enfin on a les origines de Butcher, on est en train de se rapprocher de la fin de la série.
Un grand pas.
Un grand pas. Vous trouvez ça comment ?
Bah, moi très rapidement, c'est sympa d'avoir toutes les infos sur Butcher. Là, tu as toute la naissance, on va dire, de la haine qu'il voue au
super, ouais,
au super
stip. Voilà.
Clairement, ça, on est dans la suite de ce qui s'est fait sur les autres personnages, où on a du coup un tome par personnage bien, bien détaillé. Et je trouve que ça va être sympa parce que d'ici un tome, me semble-t-il, ou deux, c'est terminé. Et au moins, on n'aura pas trop de questions sur les personnages, le pourquoi, du comment, du machin. Et j'aime bien, ils prennent un peu le temps de peaufiner la chose.
Bon, on reviendra plus en détail sur la série The Boys, je pense, quand le dernier tome sortira.
Oui.
On essaiera de revenir dessus.
Obligatoirement.
Très bonne série.
Invincible, tome 8.
Loin de ce monde.
Zou.
Oui, voilà. Référence terrible.
Vieille série télé.
On continue à suivre les histoires d'Invincible par Robert Kirkman et Ryan Otley. Toujours l'histoire de ce jeune super-héros qui.
Mark Grayson.
Qui tente de mêler sa vie de jeune et de super-héros.
Oui, de jeunes, d'étudiants, d'amoureux, de terriens et de super-héros.
Et de fils du plus gros méchant de la Terre.
C'est ça.
Mais qui était gentil à la base. C'est super riche, il y a des tonnes d'intrigues qui se mélangent dans tous les sens. C'est très très dur à résumer, je trouve.
Ben, c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'on montre dans ce tome-là tout ce qui se passe dans la tête de Mark, justement tous les conflits intérieurs qu'il a vis-à-vis de son père, vis-à-vis de son rôle de fils, vis-à-vis de son rôle de frère, puisque du coup il a un demi-frère maintenant qui grandit à vitesse grand V, vis-à-vis de son rôle de super-héros recruté par une agence, vis-à-vis de son rôle de super-héros qui a quand même envie de temps en temps, ou qui aurait envie d'aller filer un coup de main à droite ou à gauche quand un collègue venu de l'espace vient lui demander de lui prêter main forte. Il y a ses origines qui ressurgissent avec l'apparition d'une nouvelle Viltrumite qui voudrait l'enrôler. Bref, il y a plus ses sentiments pour l'autre super-héroïne, j'ai oublié son nom.
Moi aussi.
Bref, qu'elle est pour un rose, là, qui est super mignonne et qu'il aimerait bien, avec laquelle il aimerait bien sortir, mais voilà, il n'a pas trop le temps, il n'a pas le temps pour ses études.
Il a tout ça, hein. Il va dans l'espace.
Et du coup, bah, dans le bouquin, il y a tout ça qui se mélange et je trouve que c'est normal qu'on n'arrive pas vraiment à résumer les choses de manière très claire parce qu'on est vraiment dans la tête de Marc et dans la tête de Marc, c'est le bordel.
En tout cas, je trouvais le tome très bien. Thio, vite fait, quelque chose à rajouter ?
Faudrait pas que ça traîne trop en longueur quand même sur ces pérégrinations, on va dire adolescentes, parce que bon, ça peut vite devenir lassant.
Moi j'aime bien la façon dont ils mélangent toutes les intrigues en fait. Il y a toujours 40 000 trucs en même temps.
Mais
c'est bien foutu quoi.
Non, c'est très bien, mais il faudra pas en faire 3 ou 4 tomes comme ça.
Je pense que dans le tome là, ils expliquent que les études à un moment donné il va un peu arrêter.
Mais la guerre Viltrumite arrive en plus.
C'est ça, il faut un peu fight quoi.
Les extraterrestres qui veulent dominer le monde.
Oui.
Aslak, le tome 2. Alors là, tout le monde fait des grands yeux. Qu'est-ce qui se passe, Thio ?
Je sais pas, je suis persuadé qu'on l'a déjà fait, en fait.
T'es persuadé qu'on l'a déjà fait ? Je crois pas qu'on l'ait déjà fait. Si on l'a déjà fait, on le referait. C'est possible.
Moi, je ne l'ai pas lu. Hein.
Mais j'ai fouillé, j'ai pas trouvé. Alors moi, je me suis planté, que j'en ai parlé dans un où je l'ai raté en faisant le montage. Bon, rapidement, série de Hub Wettens, Michalak et l'Amiran, qui raconte l'histoire de Vikings qui se retrouve.
C'est bon, on l'a pas fait.
Ah, d'accord. On en a parlé entre nous et on l'a pas fait.
Non, on l'a parlé au club BD.
On en a parlé au club BD. Ouais, c'est pour ça que j'avais cette impression-là. Oui, nous allons à un club PD Open.
Non, mais attends, c'est un express, on parle d'abord ça.
Oui, alors Aslak, le mât du milieu, très très bonne série, un dessin très très uderzien, je trouve. Il y a un petit côté Uderzo dans son style réaliste, un peu les Chevaliers du Ciel, etc., qui faisait à une époque. Et une intrigue qui est de plus en plus intéressante, avec des personnages qui sont tous des losers et des gros cons. Mais c'est vrai.
Non, c'est bien résumé.
C'est bien présenté, ça.
Voilà. Ben, c'est des bourrins gentils.
Et ils nous contournent tous les clichés, en fait. Ils ont réussi à me surprendre à plein de fois. Bon, il y en a un, on se doute qu'il y a un des clichés du conseiller qui est pas forcément gentil, et ça, on s'en doute. Franchement, la BD est très très fun, très réussie. J'ai passé un très bon moment.
Bon, par contre, elle pue. Hein.
Elle pue. Elle sent très mauvais. C'est l'odeur du livre.
Ah non, non, franchement, j'en suis pas à ma première BD. Hein. Alors, celle-là particulièrement, elle pue. Hein.
Oui, d'accord. Bon. Enfin, moi j'ai trouvé ça très très bien, très bonne série.
Je me dis qu'il y a un jeu de mots avec le titre, c'est pour ça qu'il dit qu'elle pue. Mais...
Oula, attention. Billy Bat, le tome 6, avant que ça tourne à l'horreur. Enfin, Kevin Yamagata va rencontrer Oswald, Lee Harvey Oswald. Il est en train d'essayer de savoir les histoires autour de cette chauve-souris qui semble diriger des complots à travers le monde depuis des millénaires. Ça avance, je trouve. On a pas mal d'intrigues qui progressent. Le héros, donc Kevin Yamagata, devient un petit peu plus actif. Il subit plus ce qui se passe. Il essaye de comprendre.
Bah déjà, il a arrêté l'alcool, ça aide.
C'est vrai, ça aide. Et on a surtout les histoires autour du créateur, du faux créateur de Billy Bat, Chuck Culkin, qui était l'assistant de Kevin Yamagata. Sauf que Kevin Yamagata, quand il regarde les vidéos, on a le club Billy Bat, là.
Bon chocolat, toi.
donc le club Billy Bat, il se dit mais c'est pas mon assistant et c'est Chuck Culkin, c'est bizarre, et donc il enquête pour savoir qui est vraiment cet homme.
En le lisant, on sait en fait qui est le vrai.
Très très bien, je passe un très bon moment.
Clairement, en plus là, ils ont fait apparaître un troisième personnage, une fille, un personnage tiers qui va justement là aussi jouer un rôle dans l'intrigue. Et
on sait pas trop quoi encore.
Oui, mais je pense que j'ai commencé à te comprendre comment est-ce que tu fais la différence entre le bon et le mauvais.
Oui, moi aussi.
Ah, on garde pour nous alors. Ouais,
en tout cas, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des allers-retours dans le temps, dans différentes époques, très très bien foutu, et on ne se perd pas trop à savoir quel truc se passe dans le passé, 50 ans avant, t'as l'autre. C'est super bien écrit, bravo Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki. C'est écrit en gros sur la couverture, sinon j'oublie son nom à chaque fois. Jeu de gamin. Le tome 3, Les Chevaliers, de Mikael Roux. Bon, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette BD.
Non, on dans suit toujours... la lignée de ce qui s'est déjà passé dans les précédents.
Voilà, on suit toujours les histoires de gamins qui ont beaucoup d'imagination et qui imaginent qu'ils jouent aux chevaliers. C'est toujours des gags en une planche qui sont plutôt sympas et plutôt drôles, alors que c'est pas forcément mon trip, les gags en une planche. Ça se renouvelle pas trop, on va dire. Personnage féminin qui prend un peu plus d'importance et qui permet de renouveler un peu les gags. Comme d'hab, dans ce genre de série, il y a des gags très drôles et des gags très moyens. Mais globalement, le niveau est pas mal.
Ouais. Après, il faudrait voilà, que ça prenne un peu... Enfin, le problème du gag en une planche, voilà, c'est qu'au troisième tome, ça commence à devenir un peu redondant.
Ouais, mais d'un autre côté, je vois pas l'intérêt. Enfin, c'est une série qui est sympa, qui se vaut comme ça. Je trouve qu'elle est bien. C'est une bonne série jeunesse. Tu passes un bon moment, mais en tant qu'adulte, à la lire.
Ah oui, non, c'est clair. Parce que ça te rappelle aussi les moments où tu n'avais pas une PlayStation ou une Nintendo pour jouer, quoi.
Ou alors voilà, c'est clairement une BD quand même plutôt orientée gamin. Mais de temps en temps, il y a quelques petites blagues ou références qui ont un peu rien à faire vis-à-vis de gamins. Ça me gêne pas en soi, hein, parce que les gamins du coup vont passer totalement à travers et c'est pas très gênant.
Ouais, enfin, quand tu fais une bande dessinée sur des gamins qui ont beaucoup d'imagination et qui voient des trucs bizarres, tu penses tout de suite à Calvin et Hobbes et Bill Watterson, qui lui, plus que devait gérer ça en strip, oui. Le malade. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça vaut.
C'est de bonne qualité. Après, bonne qualité. Voilà, c'est pas un truc avec vos gosses, c'est bonne qualité.
C'est plutôt sympa.
Bah, c'est un bon achat ou une bonne offre cadeau, on va dire.
Oui.
Voilà. On reste dans les enfants, avec l'histoire de France en BD.
Chez Casterman.
Voilà. Deux tomes, on a Louis XIV et Versailles, et Vercingétorix et les Gaulois. Alors, l'histoire de France en BD, c'est une série, c'est une suite, en gros, c'est un spin-off d'une série qui racontait toute l'histoire de France de façon globale. Et les mêmes auteurs, Bruno Hetz et Dominique Joly, donc au scénario Dominique Joly, au dessin de Bruno Hetz, ont repris la série, mais en se concentrant sur un personnage
historique. Ça marche bien avec
Et son environnement. C'est clairement pas une BD qui est faite pour les grands amateurs de BD, c'est vraiment une BD jeunesse pour apprendre des trucs aux mômes, ce qui ferait grandement plaisir à Aurélie Filippetti. Et donc, de la bonne BD, quoi, enfin de la vraie BD, quoi, pour les jeunes. Bruno Hetz est un auteur qui a aussi fait du polar, des trucs un peu plus adultes, qui a un dessin très naïf, mais que je trouve assez efficace, parce que en fait, il doit surtout gérer des tonnes et des tonnes de textes. C'est très bavard.
Très. Ben, je pense que la volonté pédagogique fait que forcément, tu es obligé d'avoir du texte, parce que tu vas avoir un peu de densité, quoi.
On sent que c'est la volonté pédagogique qui prime sur la volonté narrative, ce qui est pas forcément un mal, hein. Faut juste savoir ce qu'on va prendre quand on l'achète.
C'est pour ça aussi.
Il faut cibler la compétence.
C'est pour ça qu'à la fin, du coup, tu as toute une sorte de petit livret sur, par exemple, tu vois, j'ai les Gaulois, sur comment vivaient les Gaulois, des questions-réponses, quoi.
Oui, un vrai dossier.
Avec un vrai dossier, avec des photos, justement, pour illustrer tout ça.
Moi, je pense que j'aurais adoré ça quand j'étais môme. Là, maintenant, en tant que lecteur adulte de BD, j'ai un peu plus de mal. Maintenant, j'ai deux enseignants à mes côtés qui peuvent déjà plus donner leur point de vue pédagogique.
Et là, les avis vont être très mitigés.
Ah, je vous écoute.
Je te laisse commencer.
Non, je te laisse commencer.
D'accord. Alors, je pense que pour les enseignants qui sont profondément ignares en histoire ou qui ont de grosses lacunes ou qui ont des idées reçues sur tout un tas de choses, c'est extrêmement instructif. Et en l'espace, on va dire, de moins d'une heure, on s'est remis clairement à niveau sur ces notions-là.
Moi, j'ai appris plein de trucs. Hein.
Il y a plein de choses à apprendre, et notamment à la fin, justement, dans les petits dossiers, il y a justement les idées reçues qui seront assez rapidement balayées de manière assez claire.
Et puis, il n'y a pas vraiment de concessions sur les personnages.
Oui, non, c'est très bien.
Ah, j'ai pas lu celui sur Vercingétorix, ils font référence au film.
Ils font... Non.
À quel film?
Pardon.
Ça ne s'appelle pas un film. Par contre, en termes de public visé, moi, mon sens, pour des écoles, enfin, pour des primaires, ça dépasse leurs compétences. Parce qu'au vu de la tranche d'âge, Ce qui est proposé là, ça s'adresserait à des CE2, principalement, en partie CM1. Mais alors clairement, moi, les miens, puisque j'ai des CE2 en l'occurrence, je vois pas bien ce qu'il ferait avec un livre comme celui-là dans les mains. Hein. Donc,
oui, mais apparemment, tu as aussi des élèves particulièrement...
Oui, non, enfin, bon, je suis pas dans un milieu particulièrement à plaindre. C'est juste que c'est une promotion qui aurait du mal à être autonome avec quelque chose comme ça dans les mains dans la bibliothèque de classe.
Disons que tu peux le sortir pour... Enfin, moi, j'ai déjà eu des élèves qui pourraient l'avoir, hein. Mais ça ils le lisent de manière autonome tout seul. Mais c'est parce qu'en fait, c'est des élèves qui n'ont pas besoin de toi.
Voilà, c'est ça. Il va y en avoir un par an éventuellement. Voilà. Et
ensuite, tous les autres, c'est trop dense pour eux.
C'est ça. Donc du coup, ça s'adresserait à des collégiens qui reprennent du coup une partie de ce programme-là. Et là, pour le coup, le côté bande dessinée un peu simplifié, c'est bien parce que ça évite de rajouter trop de détails. Mais j'ai peur que ça les attire pas vraiment parce que ça fait un peu trop gamin. Donc je suis un petit peu mitigé sur le ciblage de la BD, même si le contenu est intéressant et bien documenté.
Je pense au contraire que ça peut peut-être ça peut permettre justement à des élèves en difficulté, mais là du coup quand on rentre dans la pédale, ça va être chiant ça.
Mais c'est un bouquin c'est plus intéressant pour les parents pour accompagner leur gosse quoi que
ça
pour
peut
un
être,
gosse.
Mais ça peut être intéressant. Merci pour un gosse aussi parce que du coup toi en décroché sur une séance, tu peux prendre quelques pages pour illustrer quoi.
Moi tu me prenais un bouquin sur le même thème genre Denver et les dinosaures, tu me mettais des dinosaures, j'étais à fond quoi.
Oui, c'est sûr.
Par contre
les Goa'uld et les Égyptiens,
les Gaulois c'est un peu moins porteur généralement.
Par contre, ce qui est vachement bien quand même, c'est que les Gaulois ont un gros nez. Donc, petite référence à un certain Astérix qui justement dit que s'ils n'ont pas un gros nez, c'est pas des Gaulois.
Mais ce que je trouve plutôt pas mal aussi, c'est que le dessin essaye de ne pas faire qu'illustrer. Il essaie d'apporter un contrepoint, parfois un peu humoristique, parfois un peu léger. Parce que c'est vrai que le texte est bien foutu, c'est très clair, mais c'est un peu bavard. Quoi.
Oui, c'est très bavard. Voilà, encore une fois, les dossiers qui sont à la fin, eux par contre, sont très accessibles pour des enfants de primaire. C'est peut-être la partie la plus intéressante en tant qu'enseignant, encore une fois, pour cette tranche d'âge-là. Le reste, pour moi, est un petit peu difficile à cibler. Voilà. Mais bon boulot.
Ok. On passe à la suivante, je crois. On n'a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Hein. Allez, on quitte l'école. Et là, tu as la mauvaise pile.
C'est ça. Et là...
Donc, nous allons parler de Le Héros. Le héros,
le bras long, il arrive
par un auteur qui s'appelle, c'est écrit...
David Rubin.
Voilà, Rubin, je crois qu'il faut dire.
Rubin.
Oui, car malgré que ça ait toutes les apparences d'une bonne grosse BD américaine, c'est une bande dessinée espagnole.
Ah, chez Rakam.
Chez Rakam, j'aime bien Rakam.
Au prix de 26 euros.
C'est le tome 1 que nous raconte le héros. Ben, c'est l'histoire de Héraclès et de son frangin qui s'appelle, je sais plus comment... Eristée, voilà, qui sont nés en même temps, le premier qui sortait
devait commander l'autre.
C'est Héra qui avait un peu les boules d'avoir les cornes, tu vois. Vu que son mari, il a un peu fait ses deux gosses dans son dos, elle a un petit peu lancé cette espèce de malédiction.
Surtout que c'était pas les premiers, quoi.
Oui, surtout que c'était pas les premiers. C'est vrai. Donc, et c'est Hercule qui allait sortir en deuxième et qui est obligé d'obéir aux ordres d'Eristée, qui est une ordure, alors que Hercule est quelqu'un de super gentil. Au niveau de l'ambiance, c'est très étrange. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une époque indéfinie. C'est-à-dire que Héraclès va pouvoir se balader avec un hoodies et des baskets, mais va toujours avoir des aventures très époque antiquité. Tout en faisant des références aux super-héros. Par exemple, les premières planches, c'est quand même Jack Kirby qui dessine les meilleures histoires de super-héros. Ce qui fait qu'en gros, il utilise l'archétype du héros, d'ailleurs c'est là que le titre est intéressant, du héros antique, mais il l'exploite au niveau de la narration comme un héros moderne. Et j'ai trouvé ça super intéressant dans l'approche, parce qu'en plus graphiquement, ça en jette pas mal.
Bah, disons que tu vois Héraclès en espèce de sandales en... Non, tu l'auras pas. De sandales en cuir avec une veste de survêtement. Voilà. Oui. Là, tu te dis, ouais, c'est... C'est, pour moi, j'ai dit que c'était un peu une
Sorte mais de... c'est un jogging Adidas, c'est la sandale Little Marseille.
Ouais,
quoi,
mais il y a marqué numéro 1 derrière. Mais ça fait un peu une parodie complètement décomplexée, quoi. Oui. C'est léger, c'est...
Oui, parce qu'il se permet du gore, du sexe, la totale, c'est assez fun. Ouais, il y a un côté science-fiction aussi, de temps en temps. Il s'est fait plaisir, il a mis tout ce qui lui faisait plaisir, en fait, j'ai l'impression, dedans. Et ça marche plutôt bien. J'ai trouvé assez peu de défauts en fait à l'histoire. Moi, j'ai vraiment accroché.
Ben, pareil.
Je trouve que voilà, c'est très bien raconté. C'est une très bonne BD. Le personnage d'Héraclès est très fin, en fin de compte. Et Risté un petit peu moins. Mais c'est le seul regret que j'aurais, c'est qu'il est méchant en fait. Il n'y a pas de subtilité dans son personnage.
Ben justement, c'est... Alors, je sais pas du tout la date de parution de celui-là. Mais je trouve ça intéressant dans le sens où c'est un bon contre-pied au Héraclès qu'on a chroniqué il y a de ça quelques mois.
Oui,
parce que tu as un dessin qui est,
je sais plus comment.
Un dessin qui est très fin par rapport à l'autre Héraclès. Où tu avais un Héraclès plus brut, plus bourru.
Plus taillé, ouais.
Là, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus dans la finesse. C'est une histoire aussi qui est beaucoup plus légère, mais pour autant, tu racontes la même histoire.
Plus super-héros.
C'est ça. Je trouve que le
lien. Tu vois le personnage grandir.
Ouais.
On suit les travaux, en fait, on se rend compte que les travaux, alors je sais pas comment c'était dans le truc original, mais parfois il y a 3-4 ans entre les travaux. Le premier, il a 14 ans, et puis le dernier qu'on voit là-dedans, il en a 18-19. Puis il devient une star en plus, parce que tu comprends, tout le monde, elle le trouve génial comme héros. Alors il y a des t-shirts avec son nom dessus, on peut acheter des badges, des coques de portable, tu vois. Tout ça à son effigie, quoi, parce que c'est devenu une star. Et son frère est très jaloux. Très 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 jaloux.
Ça donne très envie de le lire.
Ouais, franchement, c'est très 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 sympa, c'est très 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 drôle, l'action est très bien menée, un bon moment, et les scènes de cul sont très drôles aussi. Graphiquement, bon. Voilà.
Moi, je n'ai pas eu droit, puisque c'est... J'ai pas eu droit, on me l'a pas passé.
C'est emprunté à la bibliothèque.
C'est emprunté à la bibliothèque, je suppose, pendant le club BD, vous avez récupéré ça.
Justement, c'est ça. Là.
Et ben, franchement, ça donne envie. Voilà.
Voilà. Très très bonne BD. Le tome 3 de Blast de Manu Arson.
Et je l'ai.
Voilà. Si tu nous fais un petit résumé du tome 3 de Blast.
Eh bien, nous allons donc continuer l'histoire de notre. Je l'avoue, j'ai plus.
Polza.
Polza. Et on va continuer avec l'histoire de Polza qui donc a été arrêté par la police déjà dans le tome 1, je crois, quasiment dès le début, parce que voilà, c'est l'histoire qu'il raconte.
C'est l'histoire qu'il est en train de raconter aux flics.
Et elle raconte. Et là, donc, on va voir après les épisodes de Marcel, on va voir la suite. Qu'est-ce qui s'est passé quand donc justement il a quitté Marcel, quand tous les événements qui suivent.
Voilà, parce qu'en gros, il a fréquenté un tueur en série.
Je veux pas trop en raconter parce que du coup, après, ça spoil un peu sur l'histoire elle-même. Bah, tous les événements qui ont suivi, les rencontres qu'il a faites, heureuses et très malheureuses.
Pour enfin rencontrer la fille qu'il est accusé d'avoir tué.
Triste et joyeuse, douloureuse et... enfin bon, on va arrêter avec les...
C'est moins les adjectifs.
Il prend très cher. Hein.
Ouais,
Polza, franchement, il y a des moments où tu...
Voilà.
Je comprends que Manu Larsonnet, il souffre à l'écrire, hein, parce que...
Voilà,
pour
moi, le scénario, là, le mot génie, c'était douloureux.
Ouais, mais c'est douloureux à la lecture. Hein.
C'est ça.
Là, j'ai eu des bouquins, une grosse partie de bouquins il n'y a qu'une semaine. Donc, il fallait que je fasse
une lecture intensive.
La lecture intensive. Et clairement, celui-là, je l'ai attaqué par celui-là. J'ai fait une pause. J'ai lu le reste et j'ai voulu m'y remettre. Et ça a été encore douloureux. On n'est vraiment pas dans du easy reading. Hein. C'est pas.
Wow. Toujours ce noir et blanc super chiadé. Bien
de temps en temps, un petit peu de couleur.
Utilisé très intelligemment. Ouais. Là, sur des portraits qu'il fait en découpage. Et puis toujours les blasts. Ouais. Les blasts qui sont ces moments où son esprit divague et il a une sorte d'hallucination magique, en fait. Ces moments que Polza recherche. Et puis voilà, toujours des rencontres avec des personnages intéressants. Parce qu'il se retrouve à l'asile, Polza. Il rencontre... quelqu'un dans l'asile qui va ensuite l'héberger. Et des personnages qui sont bien écrits, qui sont intéressants, qui sont touchants. Vraiment touchants. Voilà. Moi, je trouve que Larsonnet est toujours surprenant. Souvenons-nous de ses bandes dessinées Bill Barou de très rigolotes. Même si avant ça, il a déjà fait Au Rêveur, toutes les histoires autobiographiques qui n'étaient pas si joyeuses que ça. Un très bon album. Sur le scénario.
Douloureux. J'ai dit mon mot.
Voilà.
Même chose.
Le dessin
Naturaliste.
Naturaliste.
Moi, ça m'a fait penser à tout le passage dans la forêt, dans tout ce qui est justement où il y a une absence d'homme, en fait. Pour Polza, c'est là où finalement il vit le plus. Et ça m'a fait penser. Alors là, du coup, j'ai plus de peintre en tête, hein, mais ça m'a fait penser à un petit côté naturaliste avec vraiment juste le paysage, un arbre, l'horizon, enfin. une vraie impression de grandeur, d'évasion pour lui, quoi.
Moi, ce qui me...
Excuse-moi, c'est ces planches-là, voilà, qui m'ont le plus, qui m'ont le plus marqué. Après, c'est sûr que comme tu vas sur un autre le dire, tu vas parler des portraits.
Oui.
Et voilà, et là du coup, et là, Tizak, voilà, est en train de faire. Ouais, j'allais en parler aussi. Voilà, mais donc voilà, donc chacun va parler d'un plan. Moi, c'est les paysages.
Ben moi, j'avais deux mots, c'était Munch et paysage. Parce que au niveau des portraits, je trouve que c'est traité un petit peu justement dans le sentiment de douleur et de psychopathie ou de schizophrénie. Au niveau de la représentation des paysages, là encore on a de la douleur, là encore on a des traits tirés et tout ça. Et même chose sur les paysages où on rentre dans cette errance, dans ce woke movie où il divague dans sa tête, mais il suit le cours de ses pensées en marchant également et au gré de ses rencontres.
Ouais. Moi, je sais que ce que je trouve impressionnant, c'est... Enfin, Larsenet, sur son blog, parlait il n'y a pas longtemps. Il expliquait que... Enfin, c'est assez rigolo. Il avait fait un dessin parfait en dédicace. Il était dégoûté. parce qu'il avait fait le portrait parfait de Polza en dédicace. Et ça le frustrait. Parce qu'apparemment, il a un gros problème. C'est que la bande dessinée commence à fatiguer. Alors, je sais pas trop. C'était aux approches du 1er avril qu'il a balancé ça. Donc, il commence à le fatiguer parce que il commence à vouloir travailler chaque case comme une illustration. Et donc, ça lui demanderait un travail pour chaque case phénoménal, ce que je comprends. Hein.
Oui, s'il veut faire un tableau pour chaque case, c'est compliqué.
Il refait à chaque fois, quoi. Alors, tu vois, c'était à l'approche du 1er avril qu'il a balancé ça, donc je sais plus trop s'il exagérait un peu juste pour faire chier ses détracteurs, parce qu'il y en a.
En même temps, je pense que Larsenet doit être celui qui a le plus de détracteurs en France, non? C'est soit on l'aime, soit on le déteste. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Ben, moi, je l'aime.
Pareil. En tout cas, là-dessus, en termes de dessin, je vois pas comment on pourrait lui reprocher quelque chose. Hein. Il y a un boulot de dingue. Hein. Un boulot de dingue.
Il est magique. Voilà, et puis de nombreuses techniques, du lavis, quelque chose, on a l'impression qu'il y a du bic à certains moments.
C'est un boulot de fou, voilà, c'est une bible. Après, voilà, c'est pas facile à lire et... Je vais pas dire qu'on passe un mauvais moment, mais en tout cas, on passe un moment difficile, beau, mais difficile. Blotch !
Il était une fois Paul et son énorme enclume. Ils étaient follement amoureux l'un de l'autre. Mais un jour, l'enclume partit en voyage, elle faisait un stage de macramé. Elle écrivait tous les jours à son petit. Mais pendant ce temps, la guitare scintillante draguait ouvertement le petit Polo. Celui-ci, fort perturbé par la venue du nylon dans sa vie, céda finalement au doux son de la guitare. L'enclume apprit cette trahison et revint croiser le fer avec le Guigui. Malheureusement, dans la bataille, le petit Polo fut écrasé par l'enclume. La guitare pleura sur l'enclume qui se fendit et une fleur knaquit. C'est la knaquit. Eh oui, c'est nul, on est désolé. Mais là, j'ai été coupé.
Ouais, j'étais rebond sur le jingle. Oui, c'était nul, mais c'est vrai qu'il y avait une fleur knaquit.
Non, alors en fait, c'était un petit projet d'écriture que j'ai donc fait avec mon élève Tizak, et je lui ai demandé donc un nom propre, un
l'instit.
Verbe.
L'instit, ta gueule.
Putain, ça va, quoi. C'était un projet d'écriture. Ouais. Voilà ce que le petit Thio a pondu en 5 minutes. Hein.
C'est pas mal. Mais pourquoi cette référence, alors qu'on a parlé de Verbe mauvais, qui n'a pas grand-chose à voir avec les enfants
À cause de Rascal.
Ah oui, mais quoi donc, Rascal ?
Rascal aime bien les petits enfants.
C'est ça. Rascal, en fait, est un auteur de surtout. Enfin, moi, je le connais comme ça, surtout pour. Mais je ne peux pas être plus près du micro.
Ah oui. Vas-y.
Je suis déjà dedans.
Ok.
Je suis dans le micro.
Vas-y. Continue. Au fond. Il te plaît ?
Oui, à fond. Donc, Rascal est un auteur donc de livres pour enfants au départ. Surtout moi, comme ça, je l'ai connu. Donc, Le Voyage d'Oregon, à Miami, plein de bouquins. Voilà. Pour
Petit Fantôme, Petit Prince des Marais.
Voilà. Il y en a une quantité. Hein, si vous lisez. La bibliographie de Rascal, il a été un sénateur un peu prolixe.
C'est ça. Ben, quand on est à l'école des loisirs,
il vaut mieux, si on veut en vivre surtout.
C'est ça.
On est très dans la jeunesse dans cet épisode.
Ouais, mais là on était très dans la jeunesse, mais du coup on va voir que Rascal peut faire aussi des choses qui ne sont pas dans la jeunesse.
Ouais, mais des trucs jeunesse sont pas forcément très joyeux non plus.
Alors, je vais citer
Le Voyage d'Oregon en l'occurrence.
Le Voyage d'Oregon n'est pas très joyeux. Ami est donc l'histoire d'un. C'est juste pour situer. Hein, je peux en parler. C'est donc l'histoire d'un loup qui se retrouve un peu tout seul dans sa grande maison. Alors, il voudrait un ami. Alors, il va voir le petit lapin et il lui dit « Est-ce que tu voudrais être mon ami ?» Et le lapin, un peu naïf, va dire « Bah oui, bah tiens, je vais t'inviter à manger. » Alors, il l'invite à manger chez lui et tout. Mais on ne sait pas vraiment comment ça finit, l'histoire.
C'est ça.
On ne sait pas si le lapin, il n'a pas fini manger ou pas manger. Ouais, c'est...
Est-ce que bien, c'est... on va manger chez moi.
Voilà.
Il n'y en a qu'un des deux qui va manger.
Et... on ne sait pas qui a mangé, on ne sait pas quoi. Enfin bon, voilà. C'est... Mais c'est toujours un peu comme ça, les histoires de Rascal.
Ça fait penser à un récit de science-fiction de je ne sais plus quoi, qui s'appelait « Servir l'homme ». En gros, c'est des extraterrestres qui ont lu un bouquin qui s'appelle Servir l'homme, et les humains qui ont vu que le titre c'était Servir l'homme se disent ils sont là pour nous rendre service. Non, non, c'était Servir l'homme à table.
Ah, ça fait assez quatrième dimension. Ça,
ouais, c'est ouais. Ça. Mais je crois qu'ils l'ont adapté dans le genre en quatrième dimension.
Ou programme de bonne éducation pour les femmes en 1952.
Bon, on va parler de Au vent mauvais, que Rascal a fait avec Thierry Murat, que l'on connaît parce qu'on a déjà parlé d'une de ses BD. Zut, assassin, machin chose.
Le truc en Patagonie.
Oui, que je trouve plus le titre, c'est horrible. Bon, vas-y, continue, raconte le pitch de l'histoire.
Les larmes de l'assassin.
Ouais.
Hey, je suis plus fort que toi. Alors, le pitch de Au vent mauvais, donc on va suivre la sortie de prison de notre héros.
Ouais.
Il sort au bout de, je sais pas, 5-10 ans, il a rien, grosso modo, hein. Il a ses vieilles sapes, le peu de thunes qu'il a gagné en prison en faisant des travaux d'intérêt généraux, et lui il veut sortir pour aller récupérer le magot qu'il avait planqué avant
dans une usine.
Ça. Sauf que bon, pas de bol, très très vite on s'aperçoit que le magot dans l'usine désaffectée a été remplacé par un musée d'art moderne et que son magot doit sans doute être coulé sous environ 2 mètres de béton armé.
C'est ça.
Et là il se dit que il a été baisé toute sa vie.
Là, c'est un peu dommage.
C'est ça.
Il pensait se l'adorer tranquillement pendant les prochaines années. Et
non. Là... Et là, en fait, c'est le grand drame pour lui parce que du coup...
Il compte ses sous.
Il ne sait plus quoi faire.
Voilà.
Il n'y a plus d'objectif, plus rien.
Et là, il trouve un portable oublié par une personne dans l'exposition. Et la personne envoie un texto sur le portable et du coup, il sait qu'il faut envoyer le portable à telle adresse en Italie.
Et il décide d'y aller lui-même.
Et voilà, comme il va à la poste et qu'il voit que la poste, c'est toujours la poste et qu'il y a toujours environ 3 heures de queue.
Ça n'a pas changé en 10 ans de prison.
Il va aller à la poste. Voilà, c'est un petit peu le sketch de Danny Boone.
Avec la poste.
Voilà. Et donc il décide de se dire, attends, le portable, ça sert à quoi de l'envoyer vu que j'ai rien à faire. J'y vais. Et donc il choure une caisse et il part...
Avec un chien.
Il part avec un chien, il va rencontrer ensuite différentes personnes, il part donc pour l'Italie pour rendre le portable.
Et ensuite, tout son road movie, en fait.
On va suivre exactement tout ce trajet, avec donc différents personnages qu'il va rencontrer. Il va rencontrer donc le chien, il va avoir donc le petit, il va avoir ses parents aussi qu'il va aller voir.
Oui, nous étalons pas là-dessus.
Voilà, tous ces personnages, et au final, on a la fin du voyage qui pour moi voilà finit comme un livre qui te met une grande claque dans la gueule et du coup tu finis en disant putain.
Voilà. Oui, ça fait mal à la gueule. Hein.
Moi ça m'a fait mal à la gueule parce que tout le long du bouquin tu te dis il va s'en sortir, il va s'améliorer ce gars-là, il a pas un mauvais fond, tu vois.
Non, il est même plutôt gentil, hein. Enfin
voilà,
hormis le fait qu'il fasse des choix discutables en termes d'honnêteté.
Il a pas non plus fait. Enfin.
Ah non, c'est juste qu'il a besoin d'une caisse. Il va pas s'enquiquiner à vouloir prendre un train, un taxi. Non, il pique une caisse.
Non, mais excuse-moi, mais il y a quand même plus dangereux comme criminel que ça, quoi.
Ah oui, on est d'accord. C'est juste qu'il fait des choix d'honnêteté discutables. Voilà, c'est tout. Et puis mets-toi à la place du mec qui avait sa caisse. Et accessoirement, qui avait son chien dedans aussi. On lui tire sa caisse et son chien. Oui,
disons
non,
que voilà. j'aurais été plus emmerdé pour le chien que pour la caisse.
Mais c'est ça, c'est l'idée. Donc, il nous est quand même présenté comme étant un personnage assez gentil. D'ailleurs, le relationnel qui se tisse assez rapidement avec le chien montre que le chien, s'il avait quelqu'un d'agressif en face, il n'aurait pas cette attitude assez bougnasse.
Puis avec le môme aussi, il croise un môme qui est en train de fuguer.
C'est ça. Donc, on a deux paumés ensemble pendant un petit moment, pendant quelques pages. Enfin, il nous est présenté comme quelqu'un de finalement assez sympathique, assez gentil. Mais alors moi, à la fin, j'ai pas tout à fait le même ressenti que vous, pour le coup.
Non, mais j'ai pas le même ressenti que Mathieu.
Ah voilà.
c'est mon ressenti.
Non, j'avais l'impression que tu étais d'accord avec Mathieu.
J'ai pris une claque, mais la claque m'a fait me poser une question. Mais pourquoi j'ai lu ça? Tu vois, c'est le pourquoi avoir fait toute cette route pour arriver à cette fin-là ?
C'est ça.
J'ai pas compris, j'ai raté un bout du message, je pense. Thio, lui, ça l'a touché. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de la mettre en splash page, parce qu'on n'était pas d'accord aussi, je pense. Parce que, en fait, quand j'ai entendu Thio en parler, je me suis dit, waouh, il est vraiment à fond dessus. Et moi, j'ai trouvé ça sympa, mais pas à ce point-là. Donc, je me suis dit que ce serait bien intéressant d'avoir un petit débat là-dessus.
Ben moi, je suis à fond sur le trajet, je suis à fond sur le voyage. Mais alors, la fin, pour moi, tombe carrément à plat. Et c'est très décevant pour moi, cette fin-là.
Moi, au contraire, je trouve que c'est un peu la fatalité, quoi. C'est que le mec, il aura beau tout faire dans sa vie, il aura beau tout essayer, c'est... De toute façon, il y aura toujours un truc qui merdera, quoi. En fait, c'est un loser. C'est le loser, avec un grand L.
C'est pas faux.
Voilà, grosso modo, il pourra avoir tous les avantages à un moment donné possible. Il pourra avoir tous les petits coups de pouce de la destinée. Bah, la fatalité le rattrapera. Il fera que, de toute façon, il aura une vie de merde, quoi.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un vrai côté pas de bol pour ce mec, quand même. Même si, de temps en temps, il a quand même pas mal de chance. Parce que finalement, piquer une caisse, il aurait pu avoir le plein à faire, il n'avait pas un radis. À l'arrivée, il prend la caisse, le plein est fait. Quand il a plus d'essence, oh, miracle, il y a de l'argent qui tombe du ciel. Bon.
Oui, mais.
Il y a toujours un petit truc, un petit coup de pouce du destin.
Oui, mais.
Sauf qu'au bout du compte, effectivement.
Mais pas enfin, il y a un petit coup de pouce du destin, mais pas sur ce qui lui tient à cœur. Ce qui lui tient à cœur, ce serait autre chose.
Au vent mauvais. Il se démerde avec ce qui lui tombe dessus. Comme ça arrive.
Parce que lui, ce qu'il voudrait, en fait, c'est de la relation humaine. Et finalement, je crois que l'essentiel de l'histoire, elle est là, quoi. C'est, oui. Lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir enfin quelqu'un dans la vie qui lui tienne à cœur.
C'est vrai, parce que finalement, il se raccroche à cette voie, parce qu'il ne connaît même pas la fille en question.
Il a juste vu en photo.
Voilà, en espionnant le contenu de son téléphone, il arrive à comprendre qui sont ses amis, qu'elle vient de se séparer, qu'elle repart en Italie. Bref, qu'elle est quand même assez malheureuse de cette séparation-là, malgré tout. À la tête du client, il estime que son ex était un bon petit connard, donc il lui fait une bonne petite vacherie en cours de route. Enfin, effectivement, il se raccroche à ce petit fil-là qui est assez ténu, parce qu'il a effectivement rien d'autre dans sa vie. Le au vent mauvais, bon, on connaît la poésie, hein, et c'est un peu ça, c'est un peu la feuille morte pour lui. Mais elle est morte, la feuille, hein. Enfin, où qu'elle aille, de toute façon.
Mais finalement, oui, mais parce que justement, t'as la mort qui l'entoure, quoi.
Oui.
Je veux dire, le chien...
Parents, chien...
Finalement, tout ce qui pourrait lui apporter de la vie dans ses relations humaines, à chaque fois, il y a toujours un truc qui se passe, quoi. Et bon, moi, j'ai tout ça, je me suis régalé à le lire.
Je commence à me rallier à ta cause.
Effectivement, mais de toute façon, c'est ce chemin, comme c'est raconté, qui est tellement bien foutu, bien intéressant. Parlons un peu du dessin de la narration, qui est un peu particulière, quand même. On est un peu dans... c'est plus de l'illustration par moment, j'ai l'impression. C'est-à-dire que on a un texte, une voix off, très très peu de bulles entre questions. Même si là, c'est pas des bulles,
complètement.
Très très peu de bulles. On est vraiment en voix intérieure et on a des images qui sont pour moi très artistiques, un peu photographiques. C'est-à-dire, j'allais chercher le cliché, le moment qui va être intéressant. Il y a un découpage très simple. C'est souvent des cases très larges en cinémascope, quoi, je dirais, dans les faits, du paysage. Et aussi, par rapport à ce qui est raconté, on voit pas forcément l'image qui représente ce qui est dit. On a un décalage entre les deux par moment.
Mais ça comble
les blancs. Le sens,
comble les trous. On est entre deux temps. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on dirait des photographies. Pour moi, ça ressemblerait au carnet de voyage qu'un flic pourrait faire sur ce personnage-là, qui est en repris de justice pour le coup. La police de caractère même, donc un courrier new, un truc du genre, qui est de la typo de machine à écrire mécanique, hein, renforce ce côté. C'est le flic qui a écrit la description de ce qui s'est passé pour ce personnage-là. On aurait pu s'attendre qu'en fin de compte, il se fasse rattraper par la justice quelque part.
Oui. Alors, je disais photographie, bien sûr, c'est pas dans le rendu, c'est dans les cadrages.
Oui, surtout. Mais c'est
parce
le cadrage.
Parce qu'il y a un rendu, c'est pas du noir et blanc, mais c'est très monochrome, en fait. Ouais. Il y a des teintes très, très marquées, une texture de papier assez forte, et du noir et blanc, en fait. Par-dessus tout ça, un usage de la couleur très discret, qui est vraiment très joli, hein, qu'on avait déjà bien aimé dans Les Larmes de l'Assassin.
Ouais.
Qui crée beaucoup d'ambiance avec ces cadrages vraiment superbes.
très très beau, le voyage très très beau. Après la conclusion, voilà, on est Mathieu très emballé, moi peut-être pour le coup maintenant un peu, je me rapprocherai de Mathieu, je serai entre les deux.
Moi je reste mitigé quand même.
Et Pierre resterait mitigé.
Je suis resté sur ma faim, quoi.
Oui.
C'est le ah merde, je voulais pas lire ça en fait.
Après c'est peut-être chacun qui va y trouver son petit quelque chose aussi hein, sur cette fin. C'est un peu l'intérêt de ces fins un petit peu ouvertes.
C'est souvent un peu le travail de Rascal, c'est que chacun dans ses bouquins il trouve un peu ce qu'il a envie. Que tu prennes Ami quand tu le fais lire à des enfants, ils y comprennent une chose. Tu le fais lire à des adultes, ils y comprennent autre chose. Mm-hmm. Tu le fais lire à un autre adulte, il va aussi voir. Enfin, tu peux avoir vraiment une lecture multiple, on va dire, des scénarios de Rascal, souvent sur ces histoires pour enfants, et donc l'histoire pour adultes aussi. Hein.
Complètement.
Voilà. Je pense qu'on a fait le tour.
Voilà. Si vous voulez un truc un petit peu pour réfléchir, un petit peu psychologique, sur lequel vous pourrez vous engueuler avec vos amis, ben voilà.
C'est parti.
Carte blanche à...
Matemanga.
Nous enregistrons pour cette carte blanche dans des conditions extrêmement difficiles, bien que nous n'enregistrions qu'en audio. Mathieu a cassé sa carte graphique parce qu'il fait n'importe quoi avec son ordinateur. Et donc, on est obligé d'appeler via le téléphone. Donc, vous nous excuserez si la qualité n'est pas exceptionnelle, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Aujourd'hui, Mathieu va nous parler pour sa carte blanche des mangas qui lui ont fait lire du manga. Et on commence par un petit chef-d'œuvre que j'ai moi-même lu et donc forcément apprécié. C'est
Ganmu
de Yukito Kishiro. Mais qu'est-ce que ça nous raconte que Ganmu ?
Ganmu, alors déjà, juste pour information, c'est un truc qui est intéressant et que j'ai appris dernièrement, et c'est vrai que quand on le sait, ça permet de mieux comprendre la volonté de base de Ganmu. C'est que Ganmu, ça veut dire littéralement « rêve d'une arme ». Je sais pas si t'étais au courant.
Ouais, je l'avais lu, oui.
Ouais, et donc du coup, je l'ai découvert il y a quelques temps, mais c'est vrai que ça peut résumer correctement l'histoire qu'on trouve dans Ganmu.
Enfin, dit comme ça, c'est pas très très clair. Qu'est-ce qui se passe ?
Donc, on suit l'histoire de Gali, une cyborg qui a été retrouvée par un docteur en cybernétique qui s'appelle Ido Daisuke. Et tout ça se passe dans une ville poubelle, on dira, qui s'appelle la décharge Kuzutetsu. Donc, on découvre petit à petit en fait le monde de la décharge. Il faut savoir que c'est une uchronie dystopique. Donc, on découvre le monde de la décharge. Une uchronie dystopique, c'est-à-dire que c'est un futur. Très 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 pessimiste, on dira.
Ok.
Je sais pas si tu as une autre explication plus savante que la mienne.
Ça me semble bien.
Donc on commence dans un premier temps par découvrir le monde de la décharge, qui est un monde peuplé de cyborgs, on dira, et ultra violent, parce que au-dessus de la décharge, on a une ville qui s'appelle Zalem, qui déverse des millions de déchets. Juste en dessous, et la ville juste en dessous qui s'appelle la décharge est le lieu où le lit de la société essaye de survivre tant bien que mal. Donc ça va passer par des viols, des meurtres, des ventes d'organes, et on suit l'histoire de cette petite Gali qui est une cyborg qui a été retrouvée au milieu des décombres, qui a été ramenée plus ou moins à la vie par Ido dans ce monde très brutal.
On est dans un trip bien cyberpunk années 90.
Oui, voilà. Donc j'ai pas cité la date où il a été prépublié au Japon, mais voilà, au Japon, il a été prépublié entre 1990 et 95. Donc ça correspond tout à fait à l'ambiance cyberpunk Shadowrun de l'époque.
Ok, et donc on va suivre un peu les aventures de cette cyborg qui a perdu la mémoire, et donc on ne sait pas qui elle est, mais elle est super balèze, car elle maîtrise une super technique de combat.
Le Panzerkunz.
Voilà, et donc tout le monde veut savoir d'où elle vient, qui elle est, c'est plein de mystères, donc c'est vraiment très très intéressant scénaristiquement. Moi je sais que c'est une série que j'avais beaucoup aimée, parce qu'il y avait tout ce côté mystérieux, et puis en plus graphiquement, petit coup dans la gueule.
Ah oui, bonne grosse claque. Bon, pas sur les premiers volumes, parce que dans les premiers volumes, ils se cherchent un peu. Mais c'est vrai que plus on avance dans la série, plus ça devient incroyablissime. Et
alors,
c'est vrai qu'il...
Vas-y. Oui, donc il y a un gros dynamisme, il y a beaucoup de... En fait, il s'amuse à mettre en scène des situations. On voit qu'il y a aussi une inspiration un peu rollerblade, voire une petite influence de... comment il s'appelle, le Terazawa avec Cobra, vu qu'on a les scènes de combat sur roller, une sorte de sport violent.
Le motorball. Il y a plusieurs époques. Il y a l'époque Hunter Warriors, où on va voir que Gally, en fait... Ido, au départ, veut protéger Gally et veut la protéger de la souillure de la décharge, donc veut qu'elle reste une jeune fille loin de toute violence, etc. Et on découvre, en fait, dans cette période-là, que c'est une guerrière hors pair. Et donc, c'est toute la période Hunter Warrior, et ça permet de poser vraiment les bases de la décharge et des règles. En fait, c'est là où on s'aperçoit que Hunter Warriors, ce sont des chasseurs de primes qui sont payés par les usines qui permettent d'alimenter en nourriture et en biens la décharge au-dessus. Et c'est les usines qui font la loi et qui payent les Hunter Warriors pour chasser les criminels. Donc on a cette période-là. Après, on a la période Motorball, comme tu dis, où justement il y a de grosses inspirations. Et la dernière période, on va dire, c'est la période Death Angel, où je vais pas trop spoiler, mais on découvre ce qui se passe autour de la décharge, dans le monde autour, et on s'aperçoit de l'influence omniprésente des usines, même dans le monde autour.
Oui, puis on comprend un peu aussi tous les mystères autour de Zalem.
Voilà, tout à fait. Je cherche à pas spoiler. Hein.
Oui, non, la série s'arrête en 95 sur une fin qui a pas plu à tout le monde. Moi, je l'ai aimé, mais bon, je dois être un cas à part.
Alors, on va parler de la fin, justement, parce que 95, ça correspond pour Yukito Kichiro à une période difficile, c'est-à-dire qu'il a eu un problème personnel et familial, il n'a pas voulu s'étendre plus dessus, qui a fait qu'il n'arrivait plus à trouver l'énergie pour produire Gunmu. Pour ceux qui ont entendu le petit blabla que j'avais fait sur les mangaka, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est des horaires, c'est une vie, quoi, c'est un sacerdoce limite. Oui. Et donc, du coup, il n'y arrivait plus. Et à ce moment-là, il a fait la fin qu'on va trouver dans le volume 9 des éditions Glénat qui ont été sorties jusqu'en 98.
Voilà, les petits formats poche.
Les petits formats poche, mais qu'on ne trouvera pas dans l'édition bonus, la grande édition qui a été refaite entre l'édition complète, qui a été appelée d'ailleurs édition complète entre 98 et 2000.
Ah, ça veut dire qu'en gros, moi, je n'ai pas lu la fin. Donc c'est pour ça que je l'ai aimé.
Donc toi, tu n'as pas lu la fin, entre guillemets, disons, alternative.
Parce que voilà, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a fait il y a eu une très belle édition en gros format, bourrée de bonus, vraiment très très sympa. Oui.
Excellent d'être.
Et donc moi, c'est l'édition que je possède.
D'accord. Et donc, du coup, à la fin de ton édition, tu m'arrêtes si je dis une ânerie, mais...
C'est loin, je ne m'en souviendrai pas. C'est loin, je m'en souviendrai pas.
Oui, si, mais Gally a un problème, et suite à une mauvaise rencontre avec une bombe, on se retrouve dans un cas un peu particulier. Non, c'est pas ça comment...
Bref. Je me souviens d'une chute, mais...
Oui, voilà. Ok, donc c'est exactement ça.
Chute qui m'a fait penser à l'Incal, bizarrement, mais je pense que c'est volontaire aussi.
Je pourrais pas te dire. Je reviendrai sur le côté influence et référence de Gunmu, parce que c'est vraiment quelque chose où il y a énormément d'allusions, ouais, énormément de choses. Et donc en fait, lorsque on lit les formats poche, on a une fin qui se tient, on dira, voire même pour les puristes et ceux qui adorent Gunmu, c'est peut-être la seule fin qu'il aurait fallu faire, plutôt que de repartir sur Gunmu Last Order.
Oui, car il y a eu une suite, donc Gunmu Last Order. Et c'est quoi Gunmu Last Order ? Parce que là, pour le coup, moi, je suis passé totalement à côté.
Alors, Gunmu Last Order, ça correspond à la suite voulue par le dessinateur, qui était prévue initialement. Donc c'est pour ça que certains puristes qui disent « Non, il a simplement eu une pression énorme pour reprendre. » Non, non, il a dit lui-même, c'est une suite qui était prévue, qu'il voulait. Il en avait d'ailleurs fait un jeu vidéo sur PS, parce que le format papier lui rappelait trop mauvais souvenirs. Et donc, comme il avait des choses à dire encore, il avait sorti un RPG sur PS. Je crois que c'est un RPG, je corrigerai dans les commentaires si je me suis trompé. Et donc, plusieurs années plus tard, il a décidé de reprendre et de reprendre Gunmu Last Order. Donc, je vais être obligé un peu de spoiler, mais à la fin de...
Partez, partez.
à la fin de Gunmu normale, pour une raison particulière, Gally se retrouve dans la ville de Zalem. Voilà, je crois que ça résume assez bien.
C'est un passage forcé d'une série où tu as une ville mystérieuse. Donc.
Voilà. Bon, les puristes vont dire que la période Zalem est beaucoup trop courte, d'après eux, parce qu'elle décrit pas assez le fonctionnement, on va dire, normal de la ville de Zalem avant l'arrivée de Gally. Et suite à ça, Gally se retrouve à voyager dans l'espace.
Ah oui, ça change.
Et ça change grandement, parce qu'en fait, tu te rends compte que, on peut le dire, le monde, la Terre, a été complètement ravagé par une catastrophe naturelle, de mémoire un astéroïde, qui a complètement rasé la plupart de la planète, qui l'a rendu invivable. C'est un désert géant, on dira. Et donc du coup, les Terriens, pour s'en sortir, ont décidé d'essayer de coloniser les planètes aux alentours, et on se retrouve dans une guerre philosophique entre les différentes planètes, qui se continuent d'ailleurs à se faire la guerre pour de bon aussi, mais qui ont décidé de suivre des voies différentes pour pouvoir survivre sur les planètes.
Ça a l'air de n'avoir plus rien à voir avec la série d'origine.
Ça n'a plus rien à voir avec la série d'origine.
Est-ce que c'est bien ?
Alors, est-ce que c'est bien ? Là, je vais dire, ça divise beaucoup les gens. Les gens qui sont restés dans le trip de la première série vont me dire qu'il a complètement dénaturé sa série. Ceux qui cherchaient à connaître les mystères derrière la vie de Gally et comment elle connaît cet art guerrier martien, parce que c'est un art guerrier martien, le Panzerkunst, on le sait dans l'édition normale. Donc déjà, en fait, tu t'aperçois que oui, en effet, il avait mis des pistes pour dire on va aller dans l'espace, parce que c'est un art guerrier martien.
Ok, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette fin ?
Il est en train de terminer Last Order, petit à petit, on voit qu'on arrive au bout. Bon, je vais dire que certaines fois... je sais plus, mais je crois qu'on est à 17-18 ou quelque chose comme ça.
Oui, d'accord, c'est beaucoup plus gros que la première série.
Ah oui, mais voilà, c'est ce que je lui reprocherais. C'est que il s'est peut-être un peu trop perdu et il a un peu trop passé de temps. Il aurait pu être beaucoup plus efficace pour traiter les mêmes choses. Donc je crois que voilà, c'est 17 au Japon. Il perd un peu trop de temps. Il se permet certaines bastons qui ne servent à rien. Il se permet d'intégrer des personnages qui apportent pas grand chose. Ce qu'il y avait de super intéressant dans la première série, c'est que c'était efficace, c'était clair, il y avait rien qui ne servait à rien. Là, c'est un peu le cas. Mais il a toujours un trait qui est monstrueusement fabuleux. Il a toujours des idées qui sont incroyablissimes. Le problème, c'est que comme il veut délayer, c'est toujours plus, quoi.
Alors pour finir, il faut savoir que dans les années 90, il y avait eu un film d'animation, il y en a un particulièrement qui a beaucoup fait parler de lui, et qui a été vu jusqu'aux États-Unis sous le titre Battle Angel Alita. Et il y a un jeune réalisateur de l'époque, il venait de faire un film avec une sorte de robot qui venait du futur pour tuer le gars qui allait mener la résistance, James Cameron.
C'est pas lui qui avait fait Danse avec les Schtroumpfs dernièrement ?
Ouais, c'est ça. Donc James Cameron, qui en gros a pour projet de faire une adaptation ciné, mais depuis des années, des années et des années, il a ça dans les cartons, et tout le monde se dit « Mais qu'est-ce que ça va être ? Qu'est-ce que ça peut donner ?»
Ouais. Bon, alors, il a fait une annonce dernièrement, c'est pas lui directement, mais c'est un de ses directeurs
de
projet, qui a dit « Déjà, il va finir Avatar 2 et 3, et puis après, peut-être qu'il prendra un petit peu de temps pour se reposer, parce qu'il va être fatigué, et à ce moment-là, on reparlera de Gunmu. »
Ok. Donc, en tout cas, très bonne série. Quelque chose qu'on recommande. Moi, je dirais au moins aller jusqu'à la fin de la première série et puis ensuite de voir si vous avez envie de lire la suite, d'être accroché.
Voilà. Moi, ce que je conseille, c'est de lire la version poche. Réussir à trouver quelqu'un qui a la version complète en grand format pour lire les bonus parce qu'ils sont excellents. Et après, si réellement vous voulez lire la version Last Order, mais en vous disant, elle n'est pas aussi efficace, elle n'est pas aussi incroyable que la version de base.
Ok, on se retrouve pour une prochaine carte blanche très bientôt. Merci à toi. Ciao.
Ciao.
Online.
Nous allons parler du ruban bleu. Le ruban bleu n'est pas...
C'est le méchant dans Dragon Ball.
Non, c'est le ruban rouge.
Ah, zut.
J'allais dire que ce n'est pas le méchant dans Dragon Ball. Je t'ai senti venir, mais à 15
km. C'était ça ta blague?
Non, c'est pas celle-là.
Ah putain. Parce que là, ça fait 5 minutes qu'il nous... J'ai une blague. Non, mais je vais pas la faire tout de suite. Ok, merci Matt.
Non, mais c'était pas celle-là, c'est une autre. Et c'est l'autre, elle est en gestation.
Bande dessinée de Fibre Tigre.
Mais tu y vas, en fait, s'il te plaît, parce qu'on n'a pas non plus que ça à faire.
Ouais, bande dessinée scénarisée par Fibre Tigre et dessinée par Hassen, qu'on avait déjà pu voir dans Les Autres Gens. Le ruban bleu nous raconte en strip l'histoire d'un homme qui enquête sur une jeune femme mystérieuse, qui est une sorte de super-héroïne, le ruban bleu, qui fait un peu penser à Fantomette dans l'esprit, et qui finit par essayer de se renseigner. Il tombe sur la plus grande bibliothèque, elle a une bibliothèque magnifique, gigantesque, où en fait tous les bouquins, enfin il y en a un qui parle du ruban bleu, qui est caché, etc. Je suis un peu malade, donc je suis en train de m'embrouiller les pédales, mais c'est pas grave. Donc le ruban bleu, c'est une série très sympa en termes de strip, c'est bien foutu, c'est pas évident le strip, surtout sur une histoire à suivre, une histoire d'action qui cherche pas à faire de l'humour. C'est référencé de façon intéressante, on sait pas trop qui est ce personnage du ruban bleu, si la jeune femme qu'a rencontré le gars le journaliste qui enquête est le ruban bleu, pourquoi est-ce qu'elle est discrète, comment elle agit, apparemment elle aide des criminels à sortir de prison par des magouilles juridiques, mais on ne sait pas pourquoi elle fait ça, parce qu'apparemment c'est quand même une gentille. Enfin, c'est une bande dessinée que je trouvais très intéressante, très bien foutue, je prends grand plaisir à la suivre, et bon, bah, si je vous ai pas convaincu, bah, allez jeter un œil, il n'y a pas encore des tonnes d'épisodes, et c'est vraiment très très sympa, avec un dessin moi que j'aime beaucoup, en noir et blanc très classe, noir et blanc et bleu quand il y a le ruban bleu. Vous y avez jeté un œil ou pas?
J'étais en train.
Absolument ouais. Pas.
Absolument pas.
Non mais j'ai regardé plein de trucs, tu le sais, parce... en plus ouais, je te l'ai dit, pour une fois j'avais regardé une série que
le, là. Le dessin est sympa, un strip par jour sauf le week-end comme c'est précisé, ça permet du coup d'avoir un suivi, même si c'est des strips, on n'a pas un strip par semaine. Donc ça va assez vite, ça permet de suivre l'histoire quoi.
Oui, et puis il y a une volonté en plus, ce qui est intéressant c'est que ça a été traduit en anglais, donc il y a une volonté de toucher un peu l'international, qui est pas l'auteur, hein, Fibre Tigre a payé un traducteur pro pour la traduction, ce qui permet déjà d'avoir un bon rendu j'imagine, enfin je pourrais pas préciser. Bref, voilà, c'est le ruban bleu sur lerubanbleu.com.
Travail sérieux et efficace. Homme de Dieu, très honnête et sincère. Discrétion totale assurée. Authentique, voyant astrologue.
Oui, alors il a dû faire un jingle en live, mais comme il n'a pas d'écouteur, parce qu'on n'a pas le bon câble, je l'ai improvisé pour lui. On le fera en vrai pour une prochaine fois.
Le jour où j'aurai un casque.
Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit les lecteurs dans leur courrier sur les commentaires de notre site?
Alors commençons par Carotte, toujours très précis, pointu, affûté, sharp en somme, en ce qui concerne la forme et la technique de l'émission. Donc Pied-Pied, je te laisse lui répondre lorsqu'il nous conseille de résumer dans la partie express.
J'espère qu'on a été un peu plus rapide
seul.
Pour le coup dans l'express.
Voilà, moi j'ai l'impression que pour le coup on a essayé de faire un effort là-dessus, donc on a essayé de suivre un petit peu cette idée-là, et puis d'augmenter le niveau.
Alors, pour les dB,
de,
on
3
a...
dB.
Non, on a pu faire que 2,5 parce que 3 c'était trop fort. Alors,
on a gagné 0,1 d'un côté, enfin 10% d'un côté. Et
non, mais comme c'est exponentiel, on a gagné 5 dB, 0,1 et 0,5. Enfin bon, je vais faire un effort pour essayer de corriger un peu les sons. J'avoue que je suis en train de prendre en main notre console de mix et comme ce n'est pas vraiment mon domaine de prédilection, je rame un peu.
Non, bon, petit à petit, on va améliorer la bestio. Mais en tout cas, merci pour les infos parce que ça nous donne des pistes à suivre.
Juste, c'est pas le bon pronom personnel. C'est pas on va, c'est pied-pied va. Parce que moi, je t'avoue que très honnêtement, je ne vais pas l'aider là-dedans.
Mais
toi,
non, mais
je
si,
ne pense
mais
pas
regarde,
que tu vas faire semblant
quand
de.
Quand on enregistre, on a fait en sorte pour l'express d'aller plus vite.
Ouais. Oui, non, mais je te parle sur les dB et tout ça. Là, je pense que l'aspect technique, c'est pied-pied qui gère, quoi.
Bah, en même temps, c'est sur mon ordi, c'est moi qui fais les réglages tout à l'heure. Hein.
C'est un podcast BD, pas un podcast DB, alors vous me faites pas chier.
Ok, merci pour la blague, Pierrick. Voilà. Tu l'avais pas préparé, j'espère.
Non, pas du tout.
Ah, ok, c'était une blague improvisée par quelqu'un
donc,
qui est malade.
Continue. Bon, sur le je suis malade, j'aime bien le rappeler aux gens.
Sur le contenu de l'émission, Carotte, pour nous, c'est mission accomplie, puisque apparemment, on lui a donné envie de lire Joe l'aventure intérieure, donc mission accomplie pour nous. Arnaud, après nous avoir remercié, il le fait d'ailleurs pour chaque émission.
Oui,
merci Arnaud, c'est à nous de te remercier. On ne sait pas trop pourquoi tu dis merci, mais que merci quand même. On ne sait pas si c'est l'émission, le plaisir de pouvoir nous
remercier pour notre régularité.
Voilà,
le plaisir de l'émission.
Puis on lui laisse un espace d'expression avec la zone de commentaires, c'est beau quand même. Bref, il a été piqué au vif et suite à nos petits derniers commentaires à nous, il a laissé son com sur American Vampire.
Suite à tes commentaires.
Oui, c'est merci, toi,
Mathieu,
c'est toi,
merci Mathieu, tu
il aime bien
toi aussi, tu es très précis. Point. C'est pas toi, Carotte, par hasard. Donc pour American Vampire, il a adoré l'esthétique du dessin. Il avoue par contre avoir été un petit peu perdu par les différents allers-retours temporels. Thuo, ton avis?
Sur American Vampire, les allers-retours
rappelle-toi,
temporels.
Rappelle-toi, tout le long, oui. Change de date.
Mais parce qu'on changeait aussi de graphisme, donc du coup ça permettait quand même d'aider un petit peu. Mais c'est clair que ça peut, je suis tout à fait d'accord que ça peut un peu déstabiliser. Toi t'avais pas trop été déstabilisé justement avec le changement de truc. Moi j'ai mis un peu de temps pour retrouver les personnages, je suis d'accord avec
Arnaud. Sadaya, qui était dans le même sac qu'Arnaud pour les commentaires,
est-ce que tu
es venue et elle a laissé un commentaire, ou il, mais je pense que c'est elle, oui, c'est a laissé un commentaire en disant que elle allait laisser un commentaire. Et depuis 3 semaines, on l'a pas revu. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en fait, du coup, tu disais que tu avais lu la plupart des BD, que tu avais lu le numéro 1 du professeur Cyclope, tout ça. Et donc,
je crois qu'elle a son blog en plus, Sadaya.
Bah alors voilà.
Sympa.
Donc, viens nous donner
un petit. De le donner dans nos commentaires.
Oui, viens nous donner un petit signe de vie parce qu'on sait pas trop s'il faut s'inquiéter pour ta santé ou s'il faut te ranger dans la case de la famille Cahuzac qui dit pas que des vérités.
C'était vraiment un enfant. On va le remplacer, je sais pas.
En fait, c'est nos fidèles poditeurs. Donc
ouais, mais écoute, Pierrick est malade. Moi, j'ai mes ragnagnas, hein, c'est comme ça. Ou pas. Okay. Thuo, pour toi, merci pour ta vanne. Ça fait plaisir.
C'est gratuit.
Aucun
c'est
commentaire
gratuit.
Là-dessus. Voilà. Bon, ça fait quand même chaud au cœur de savoir que quand tu as besoin de taper sur quelqu'un, tu penses à moi.
Je pense à toi.
Ça fait plaisir. Bon, je mettrai ça sur le compte de l'inspection. Toujours pas passé, d'ailleurs.
Toujours pas passé.
D'accord. Ça va sinon ?
Non mais les gens s'en foutent ça je crois en fait.
Allez, on continue. Donc Arnaud qui dans l'émission 75 nous remercie encore. Merci Arnaud. Je pense qu'on doit lui procurer un vrai moment de plaisir. Tant mieux. La chronique d'HK pour Totori, ça a été comme une petite Madeleine de Proust puisque ça lui a rappelé l'époque décomplexée de la bande dessinée. Pour reprendre ces termes sur des gros seins, des grosses aventures, de les
gros fight bien bourrin,
du gros fight bien bourrin. Donc voilà, votre avis là-dessus, pareil, même ressenti.
Oui, bah c'est vrai que moi, HK, quand j'ai vu que Thio l'avait acheté, c'était parce que ça m'a fait sourire, parce que ça m'a rappelé les BD que je lisais chez le libraire quand j'étais môme, quoi.
Mais il y a aucun souci. Bon. Je pense qu'il faut, aussi accepter de lire un petit peu de la BD décomplexée comme ça, où c'est de l'évasion, c'est du bourrin, tu te fais plaisir.
On en reparlera d'ailleurs bientôt, d'ici un mois, quand on parlera de la semaine.
Ouais. Et on terminera avec le Zouave Interplanétaire, dont on avait chroniqué, il avait eu son petit
très espace, bon site.
Hein, voilà, on lui avait consacré une petite chronique. Visiblement, pied. Bien joué, tu as mis dans le mille en ce qui concerne la description de ses intentions. Donc il était très content de ça, ça lui a fait chaud à son petit cœur pour reprendre ce qu'il disait. Et puis accessoirement, visiblement, il ne savait pas quoi faire de ses dimanches après-midi, puisque Walker Texas Ranger s'est arrêté et que visiblement, il n'est pas encore assez mort pour passer chez Drucker. Heureusement, il y a notre émission pour combler le vide qu'il y a entre ces deux émissions, entre ces deux univers. Un beau mélange, nous sommes donc moitié Walker, moitié Drucker.
Ouais, mais en même temps, on est un peu Chuck Norris.
On est Chuck Norris.
Chuck Norris, c'est quand même pas rien.
C'est vrai, on est pas rien.
Merci, Tizak.
À vos commentaires, messieurs, dames.
Eh bien, nous avons fini. Je pense que les gens vont pouvoir enfin arrêter de nous écouter s'ils ne l'ont pas déjà fait.
Surtout auprès de la chronique du docteur Tizak. Parce que je pense que là, on a perdu nos fidèles.
Voilà, non, justement, j'aiguillonne un peu. Faut qu'ils reviennent vers nous, là.
Nous vous rappelons que vous pouvez nous laisser des commentaires et des étoiles sur iTunes, même s'ils sont pas très gentils, c'est pour nous que vous le faites. Vous pouvez aussi sur différents sites, Podcast France, vous pouvez sur notre site, bien entendu, lavoixdesbulles.fr. Et puis, nous, ce qu'on va faire, c'est que je crois que on va se dire à bientôt, non ?
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
À très bientôt.
À très bientôt.
Genre dans 15 jours pour enregistrer l'émission suivante.
Non, dans 15 jours.
Ah, dans 15 jours, bien sûr.
Ouais, dans 15 jours. Dans 15 jours. Et on espère vous voir au Festival des Calendes de Bulles. C'était vraiment un très bel éternuement, Thio. Merci à vous de nous écouter. Ciao, ciao.
Bye, bye.
Ciao.
28ème prise, bonjour. Non mais les gars, faut arrêter quoi.
Bonjour et bienvenue au One.
Non mais t'enregistres ou pas là? C'est la bonne ou pas?
Parce c'est que... moi qui enregistre.
Non, non, mais non. Dites-moi, quand est-ce que je commence l'émission? C'est ça déjà commence, trois ça, fois qu'elle bon. Commence.
Bonjour et bienvenue au One A Club.